Bien, sans perdre plus de temps, je crois que comme nous sommes assez serrés dans le programme, je souhaiterais donc à présent donner la parole à un de nos meilleurs philosophes français, je le dis sans phare, François Clemens, professeur à l'université.
Alors, ex-Marseille Université, AMU.
Très bien François, tu sais, ces nouveaux sigles, n'est-ce pas, nous confondent tous. En tout cas, je crois qu'avec lui, n'en déplaise aux critiques des questions externes, je crains fort que nous ayons droit là à une défense du rationalisme en même temps qu'à une défense des questions externes. C'est pourquoi, François, je te laisse vraiment avec grande joie la parole pour que tu nous parles de métaphysique du rationalisme et rationalité de la métaphysique.
Merci beaucoup, Claudine, pour ces mots très gentils. Je voudrais d'abord remercier donc très vivement le professeur Claudine Tiercelin qui m'a fait l'honneur et l'amitié de participer à ces journées de dialogue avec Jacques Bouvresse. Mais aussi, surtout, m'excuser auprès d'elle et de vous tous pour le caractère excessivement ambitieux et même, disons-le, carrément prétentieux et ronflant du titre que j'ai bien imprudemment donné à cet exposé, voici quelques mois déjà, sans peut-être suffisamment y réfléchir, et en tout cas sans prendre peut-être la pleine mesure de ce à quoi je m'engageais de façon aussi inconsidérée. Mon seul tort, en l'occurrence, aura été sans doute d'avoir présumé de mes propres forces. Car sur le fond, et s'agissant de la thèse par ailleurs relativement banale que je me suis promis d'emblée de défendre, avec mes petits bras, d'un lien en quelque sorte constitutif entre rationalisme et métaphysique, je persiste et je signe. Ce qui nous réunit aujourd'hui, au-delà même du sentiment de profonde gratitude intellectuelle que nous éprouvons tous à l'endroit de Jacques Bouvresse, et tout particulièrement de son exceptionnelle vigilance dans ce domaine particulier, c'est, j'imagine, une commune adhésion, enfin j'espère, une commune adhésion à un certain nombre de valeurs épistémiques qui ont pour nom rationalité, primat de l'argumentation, etc. Et donc un commun attachement, en gros, aux grandes lignes d'un certain idéal rationaliste, tant dans le champ de la connaissance que dans celui des affaires plus prosaïquement humaines. À moins que ne figurent quelques traîtres parmi nous, je partirai également du principe que nous sommes tous également conscients de la nécessité, en effet, d'une reconstruction de la raison. Encore convient-il nous accorder d'abord sur ce qu'il faut entendre juste par là. S'agit-il seulement de défendre les prérogatives de la rationalité dans des domaines aussi différents que l'activité scientifique, la philosophie, l'éthique et la réflexion politique, ou la politique elle-même, tout court, ou en d'autres termes, de défendre une certaine forme de rationalisme au sens le plus large du terme, face aux nombreuses variétés d'irrationalisme ou d'antirrationalisme, plus ou moins militants, qui ont pu proliférer et attirer l'attention des chalands, je dirais de ceux que Isidore Ducasse appelait délicieusement, enfin il ne pensait pas au même, mais les grandes têtes molles, tout au long, disons, simplement du XXe siècle, et donc forcé de reconnaître qu'elles sont encore loin d'avoir cessé d'exercer, hélas, leur assez prévisible pouvoir de séduction. Ou bien veut-on dire, de façon à la fois plus courageuse et plus plausible, que c'est en fin de compte la notion de raison elle-même qui a besoin, effectivement, d'être, sinon reconstruite, du moins largement repensée ou reformulée, non pas tant ou non pas seulement du fait des diverses tentatives de déconstruction dont elle a pu faire successivement l'objet depuis la fin du XIXe siècle, mais afin surtout de tenir compte des principaux défis auxquels elle se trouve confrontée aujourd'hui, du fait principalement de l'évolution même de la connaissance scientifique au cours de cette période. Il n'est pas sûr qu'il faille vraiment choisir entre ces deux interprétations possibles de l'idée de reconstruction de la raison, tant les deux questions sont étroitement liées. Mais il me semble que si tel devait être le cas, c'est bien évidemment à la seconde qu'il conviendrait, sauf à perdre inutilement son temps dans des querelles, sinon subalternes, du moins perdues d'avance, d'accorder la priorité. Une fois de plus, ce qui nous réunit aujourd'hui est vraisemblablement donc une volonté commune de défendre la raison contre les déconstructeurs et irrationalistes de tout poil. Mais, après tout, comme l'a remarqué judicieusement Samuel Beckett, il ne suffit pas d'édifier un temple à la divinité, encore faut-il qu'elle accepte d'y descendre. Dans le texte programmatique qu'il a rédigé en vue du présent colloque, Jacques relève qu'en dépit de toutes sortes de dérives intellectuelles persistantes qui pourraient susciter l'apparence du contraire, il existe aujourd'hui des signes d'une renaissance possible, souhaitable, de l'idéal de rationalité tel que nous l'ont légué les Lumières dans le champ de la philosophie et du savoir. Alors, acceptons-en l'augure et formons le vœu que notre réunion d'aujourd'hui, enfin de ces trois jours, apparaîtra rétrospectivement un jour peut-être comme un de ces signes annonciateurs. À mes yeux, et en tout cas c'est l'idée que je me propose de développer devant vous, un des signes les plus remarquables et les plus encourageants de ce changement souhaitable de paradigme est sans doute le renouveau récent de l'intérêt pour la métaphysique au sein de la philosophie contemporaine, ou en tout cas de la philosophie de tradition analytique, qu'à tort ou à raison, on avait eu longtemps tendance, surtout en France, à croire peu ou prou congénitalement allergique à la métaphysique en tant que telle. Il existe une ambiguïté bien connue dans l'usage du mot rationalisme en philosophie, qui ne tient pas seulement au fait qu'il renvoie tantôt à la thèse définitoire du rationalisme classique, selon laquelle la raison seule, indépendamment de toute expérience et se fondant sur les seuls principes a priori, sur ces seuls principes a priori, est en mesure d'atteindre un ensemble de vérités qu'elle est en mesure par elle-même de valider, et tantôt la doctrine de nature beaucoup plus générale, selon laquelle la raison est notre mode d'accès privilégié à la connaissance et à l'intelligence du monde et de nous-mêmes. Ce qui rend encore plus compliqué la définition du rationalisme en général est d'abord que celui-ci, pris dans son sens le plus large, qui seul nous intéresse ici, est, comme le notait Granger, moins une doctrine à proprement parler qu'une orientation générale, je cite Granger, une certaine forme ou manière d'interprétation de l'expérience humaine. Et se résume assez vite dans l'idée, au fond en elle-même assez vague, selon laquelle la réalité constitue notre mode d'accès privilégié à la vérité et au savoir. C'est ensuite que l'idéal de rationalité, de progrès et d'universalité qu'il est devenu habituel d'associer indistinctement aux Lumières, alors même que celles-ci vont grosso modo de Leibniz jusqu'à Kant d'une part, et jusqu'aux philosophes, avec un grand P, et autres théoriciens de la raison expérimentale, d'autre part, de Locke à Condillac en passant par les encyclopédistes, constitue en quelque sorte un cas intermédiaire. Et c'est enfin que le lien originaire entre le rationalisme classique, disons le rationalisme au sens étroit, le rationalisme au sens épistémologique du terme, et le rationalisme au sens large, ne se laisse pas si aisément dénouer, ainsi qu'il ressort justement de la considération des rapports entre rationalisme et métaphysique. La cause, de prime abord, semble entendue. Autant il va de soi que le rationalisme classique, ou en tout cas le rationalisme du XVIIe siècle, d'inspiration plus ou moins directement cartésienne, est indissociable d'une certaine représentation métaphysique du monde, autant il semble communément admis que le rationalisme au sens large, et disons pour faire vite moderne du terme, n'est tributaire d'aucune conception métaphysique en particulier. C'est cette opinion répandue que je voudrais en priori contester, quitte à revenir un instant, si vous voulez bien, sur les rapports historiquement complexes entre rationalisme et métaphysique, mais que je devrais me contenter, faute de temps, de résumer sous forme de généralité et tout me porte à le craindre de simple platitude. Chez les philosophes classiques, la postulation d'une aptitude naturelle de l'homme à développer et à fonder en droit ses connaissances à partir des seules ressources natives de son esprit peut évidemment s'exprimer comme une forme de confiance a priori dans la raison comme voie d'accès privilégiée à la nature des choses. En quoi le rationalisme cartésien, pour faire vite, et au-delà de l'hypothèse psychogénétique qui la sous-tend, l'inéisme, peut être considéré malgré tout comme l'une des sources du rationalisme moderne et même contemporain sous sa forme la plus générale. Toutefois, la différence majeure tient bien sûr aux présuppositions, d'une part, et aux enjeux, d'autre part, proprement métaphysiques du rationalisme classique. Le présupposé fondamental, en l'occurrence, est celui d'une intelligibilité intrinsèque du monde, formulée en termes d'ordre naturel et de loi de la nature, ainsi que l'idée d'une forme d'harmonie préétablie entre la structure de notre esprit et celle de la réalité elle-même, que l'homme est en mesure de mettre au jour en usant de sa seule raison et en s'appuyant sur les semences de vérité, comme disait Descartes, que Dieu a placées en lui. Certes, s'il prolonge en ce sens et à sa manière propre le lien qu'établissait le rationalisme antique entre l'ordre du logos et l'ordre du cosmos, ou sa reformulation médiévale sous les traits d'un ordre naturel à la fois rationnel et hiérarchique, le rationalisme classique n'en rompt pas moins, il est vrai, avec la conception qui prévalait jusqu'à lui d'un monde intrinsèquement porteur, non pas seulement d'un ordre, mais aussi d'un sens, un monde ignorant encore la séparation du fait et de la valeur, et amorce à son insu le processus de désenchantement du monde, qui se poursuivra et s'accentuera au cours des siècles suivants. Le fait est qu'en subordonnant l'intelligibilité et la connaissabilité de la réalité physique à sa mathématisation, en privilégiant le quantitatif ou le mesurable au détriment du qualitatif, la révolution scientifique du XVIIe siècle, la fameuse révolution galiléo-cartésienne, ainsi que le modèle mécaniste et corpusculaire d'explication des phénomènes naturels, comme aussi de la perception que nous en avons, par le truchement des sens, l'exclusion des qualités secondes, etc., vont creuser peu à peu l'écart entre ce que Wilfried Sellars appelait l'image scientifique et l'image manifeste du monde. Et c'est, comme l'on sait, de ce fossé grandissant que s'inquiétera bientôt Berkeley, comme c'est par ailleurs de la séparation à bien des égards parallèles du fait et de la valeur que Hume prendra explicitement acte au XVIIIe siècle. Reste que le rationalisme classique, sous sa forme originelle, est bel et bien tributaire, en effet, d'un certain nombre de présupposés métaphysiques. Existence de Dieu, ordre naturel, rationalité du réel telle qu'elle s'exprime dans les lois de la nature, etc. Reste aussi qu'une des conséquences ou des implications majeures du rationalisme, ainsi compris, tient évidemment au fait que si l'entendement humain, bien que fini, est par nature capable de produire des connaissances et de dessiner au moins les grandes lignes, les premiers principes d'une science de la nature indépendamment de l'expérience, alors tout porte à croire qu'il n'est nullement borné à la connaissance du seul univers sensible et qu'il est donc également capable d'une authentique connaissance métaphysique. Or, c'est évidemment ce deuxième lien ou ce deuxième aspect du lien originaire entre rationalisme et métaphysique qui va progressivement se défaire au XVIIIe siècle au fur et à mesure de l'infléchissement de l'idée de raison dans le sens de la raison expérimentale, de la théorisation de celle-ci, dont celle-ci fera l'objet, sous la plume des empiristes britanniques, et finalement de la condamnation à partir de Hume de la métaphysique elle-même. C'est une banalité que d'observer que le rationalisme des Lumières, exception faite évidemment pour Leibniz, aura été en très grande partie le fait de philosophes d'orientation empiriste et surtout le plus souvent hostile à la métaphysique. À cet égard, il n'est nullement besoin de supposer, comme le fait Husserl, dans sa célèbre conférence de 1935 sur la crise de l'humanité européenne et la philosophie, que, je cite, « la figure du développement de la ratio en tant que rationalisme de la période des Lumières a été aussi concevable, fut-il un égarement, et encore moins nécessaire de considérer avec le philosophe allemand que cet égarement est pour nous objectivisme ou naturalisme, pour constater qu'en tout cas, et de façon paradoxale, l'émergence d'une forme nouvelle de rationalité au cours de la même période s'est accompagnée de la remise en cause progressive, non pas seulement du type particulier de présupposés tant épistémologiques que métaphysiques qui sous-tendaient le rationalisme classique, mais plus généralement de l'entreprise métaphysique elle-même. Le paradoxe atteindra sans doute son point culminant au XXe siècle avec le cercle de Vienne, dont le rejet bien connu de la métaphysique n'aura d'égal que l'attachement à l'héritage de l'Aufklärung. Or, il s'agit bien en effet d'un paradoxe. On admettra sans difficulté, je pense, que le rationalisme pris dans son acception la plus large, autrement dit la conviction, comme je disais tout à l'heure, finalement assez vague en elle-même, selon laquelle la raison demeure notre meilleur mode d'accès à l'intelligence du monde en général et de la condition humaine plus spécifiquement, ne dépend d'aucune conception métaphysique en particulier. Je n'en soutiendrai pas moins pour ma part qu'en dépit des apparences, il ne saurait avoir d'avenir pour le rationalisme ainsi compris, sans que ne soit prise suffisamment au sérieux la question de son soubassement, ou, si l'on préfère, de ses conditions de possibilité métaphysique. Reconstruire la raison, oui, mille fois. Mais quelle raison et sur quelle base la reconstruire ou la refonder? Une autre évidence, puisque j'en suis pour le moment enfilé allègrement les platitudes, est qu'on voit mal comment, ne serait-ce qu'au regard de l'évolution de l'ensemble de la connaissance, des procédures de raisonnement et des méthodes d'investigation scientifique depuis le début du XXe siècle, au moins, la raison pourrait être considérée aujourd'hui comme une sorte d'idéal monolithique et intemporel. Selon Granger, la grande découverte hegelienne, c'est l'historicité de la raison. Sans aller forcément jusque-là et sans nécessairement attribuer au seul Hegel la paternité de l'idée en question, force est de reconnaître qu'au vu, plus simplement, des bouleversements successifs qu'a dû subir une certaine conception, lointainement héritée de la philosophie grecque et que n'aura finalement modifié qu'à la marge la révolution galiléo-cartésienne, aujourd'hui, du fait notamment et de la relativité générale et de la mécanique quantique, de la pluralité désormais acquise et apparemment irréductible des calculs logiques, du caractère essentiellement probabilitaire d'un nombre croissant de lois scientifiques, et j'en passe, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de mentionner, vous ne mentionnez que pour mémoire, le fameux effet papillon, les théories du chaos, les fractales, les catastrophes et autres structures dissipatives, il est devenu assurément pour le moins difficile de résister tout à fait à l'idée exprimée par le même auteur, par Granger, que la science progresse, je cite, par dépassement successif des formes périmées de raison, et que celle-ci ne saurait être désormais conçue comme un système clos de principes déterminés a priori, mais plutôt comme un processus plastique et dynamique dont Bachelard observait déjà qu'il ne pouvait survivre qu'en acceptant, je cite, de démultiplier ces domaines en des systèmes provisoirement autonomes. Historicité, diversité, pluralité, et même jusqu'à un certain point relativité culturelle de la figure jadis uniforme de la rationalité, autant de données factuelles qu'un rationaliste conséquent ne saurait de nos jours ignorer, mais aussi autant de défis qu'il lui incombe en même temps de relever, s'il entend néanmoins défendre l'exigence ou l'idéal, tout à la fois d'unité et d'universalité de la raison, qu'il estime, à juste titre selon moi, avoir reçu en héritage de la très ancienne et très précieuse tradition de la primauté du logos sur les instincts, les intuitions, les préjugés ou les attaches communautaires. Aussi ouvert soit-il, parce qu'on parle souvent de rationalisme ouvert, aussi ouvert soit-il, aucun rationalisme digne de ce nom ne peut faire sérieusement l'économie d'une réflexion préalable sur ce qui rend en droit possible au moins une forme minimale de cette universalité de la raison qui aura été l'une des thèses les plus fortes, et aussi est-il besoin de préciser les plus riches de conséquences éthiques et politiques, de celui des Lumières, du rationalisme en général, pardon, et plus particulièrement de celui des Lumières. À l'origine du rationalisme moderne, il va sans dire que cette universalité était d'une certaine manière d'emblée garantie, moyennant l'hypothèse de linéisme et l'idée de lumière naturelle. Époque à jamais révolue, semble-t-il, en dépit de la réhabilitation constante depuis les années 60, d'une forme en fait très différente d'inéité, en linguistique d'abord, bien sûr, avec Chomsky, puis en psychologie génétique, développementale, et finalement en anthropologie. Une autre façon à laquelle je crois encore moins de préserver l'universalité de la raison en tant qu'opérateur privilégié de la connaissance du monde en tant qu'il se donnait dans l'expérience consisterait à la subordonner à l'existence et l'activité d'un sujet transcendantal, fût-il devenu entre-temps sujet scientifique collectif et conscient de sa propre historicité. Un transcendantal que, compte tenu de ce qui précède, et si je me rapporte une fois encore à Granger, mais aussi à de nombreux autres auteurs, ne semble plus devoir être conçu lui-même que sur un mode historiquement et contextuellement déterminé, qui nous laisse sur notre faim quant au fond de la question. Aussi avancerai-je benoîtement, pour conclure sur ce point, et conformément à une inclination très longue de ma part en faveur du réalisme, aussi bien épistémologique que métaphysique, qu'en fin de compte, le seul moyen d'assurer le minimum d'unité et d'universalité, de face, à vrai dire, d'une même médaille, que l'on est a priori en droit d'associer à l'idée même de raison, et de préserver envers et contre tout l'idée d'une intelligibilité fondamentale du réel lui-même. Une étape essentielle en ce sens peut paraître tenir à la frontière exacte, si vous voulez, de la philosophie des sciences et de ce que Jules Villemin appelait la métaphysique de la connaissance, à la critique récente de la théorie dite jungienne de la causalité et à la réhabilitation qui s'en est suivie de cette dernière en tant que catégorie pleinement métaphysique, soit en tant que relation nomologique de nécessitation entre propriétés conçues comme autant d'universaux, Chamstrand, par exemple, soit comme résultante du jeu des dispositions des corps selon des modèles de ce qu'on appelle quelquefois la « power theory ». Dans un cas comme dans l'autre, il est clair que la discussion ressortit au moins en partie au registre de la métaphysique. On pourrait multiplier les exemples en ce sens, qui concernent entre autres, en vrac, les espèces naturelles, le problème de la composition matérielle, la statue et le bloc d'airain, le marbre, et bien d'autres encore. Mais, comme on l'aura sans doute compris, le point qui m'intéresse en priorité, sans doute parce qu'il me paraît effectivement le plus décisif, est celui de la métaphysique dite générale, en tant que mise au jour des catégories elles-mêmes les plus générales de l'être. Ici encore, il me semble qu'il s'agit d'un aspect majeur de l'idée indissociable du programme nationaliste, d'une rationalité ou d'une intelligibilité du monde, mais aussi du postulat qui ne va pas de soi, qui a été discuté, bien sûr, d'un aveuglement fondamental du monde, « basic furniture of the world », selon la formule célèbre de Russell, à laquelle fait écho Putnam quand il rétorque, à peine moins fameusement, que le monde n'est justement pas une chambre meublée. Dans ce qui suit, je ne chercherai pas à défendre contre toutes les formes bien connu désormais de scepticisme, de relativisme, de déconstructionnisme ou de réalisme à visage humain, d'inspiration plus ou moins ouvertement néo-kantienne, la possibilité d'une connaissance métaphysique que j'ai, pour ma part, tendance à vrai dire tenir pour acquise depuis déjà pas mal de temps. Par métaphysique, j'entends donc en priorité, mais sans nécessairement reprendre non plus à mon compte l'anathème, jeté par Kant et par ses successeurs sur la métaphysique spéciale, cette discipline que Jonathan Lowe définit comme, je cite, une enquête rationnelle sur la structure fondamentale de la réalité, ou en d'autres termes, ce que Williams appelait pour sa part l'alphabet du monde. Lowe lui-même, il est vrai, préfère rattacher la possibilité de la métaphysique à la définition qu'il propose de celle-ci en tant qu'exploration des configurations des possibilités métaphysiques. Bien entendu, il ne s'en suit pas, comme remarque d'emblée Lowe, que la métaphysique, je cite, serait en mesure à elle seule de nous dire, en règle générale, ce qui est. Aussi a-t-elle plutôt pour tâche principale de nous dire ce qui peut, ce qui pourrait être et aussi ce qui doit être. Cette thèse d'une relation interne entre la possibilité de la métaphysique et la notion même de possibilité métaphysique s'accompagne chez Lowe d'une forme de répartition des tâches, de division du travail, entre métaphysique et science, au terme de laquelle, s'il appartient à la première et à elle seule, d'établir l'inventaire des catégories les plus générales de l'être et de dessiner la structure a priori des relations possibles entre étant de catégories différentes, en bref, de nous dire ce qui peut donc et doit être, il revient en revanche à la seconde, à la science, enfin à l'empirie en général, par que je comprends et l'expérience sensible et les sciences, de nous dire quels sont parmi les possibles métaphysiques ceux qui se trouvent effectivement actualisés dans le monde réel. Lowe, bien entendu, est parfaitement conscient de l'impossibilité de tracer une frontière rigide entre l'un et l'autre pôle, a priori et a posteriori, de la connaissance humaine, y compris du reste au sein de la métaphysique elle-même, comprise dans son sens le plus large. Je n'aborderai pas ici la question délicate de l'indispensable mouvement perpétuel de va-et-vient, d'ajustement réciproque ou de recherche d'un équilibre réfléchi entre cette composante irréductible de la réflexion métaphysique qui relève pour l'essentiel de l'analyse conceptuelle et d'autre part la prise en compte, l'interprétation et l'analyse critique des méthodes et des acquis, au demeurant toujours provisoires et révisables, des sciences positives. Je me contenterai de renvoyer aux pages lumineuses que Claudine Tercelin a consacrées récemment dans son livre « Le ciment des choses » à cette question et à la nécessité impérieuse où se trouve le métaphysicien à l'âge de la science, d'échapper ainsi au double piège de la pure « armchair philosophy », comme disent nos amis anglais, et du scientisme ou d'une métaphysique intégralement et peut-être naïvement naturalisée. Faute de temps, je me bornerai à remarquer que s'il est jusqu'à un certain point lui-même conscient de cette nécessité devenue à notre époque proprement incontournable, là-haut, pour en revenir à lui, n'en postule pas moins, on l'a vu, l'existence d'une forme de division du travail relativement tranchée entre métaphysique générale et sciences empiriques. Comme il l'écrit dans les premières pages de son livre aussi remarquable qu'influent, « The Possibility of Metaphysics », la science empirique nous dit tout au plus ce qui est le cas, et non pas ce qui doit ou ce qui peut être, mais se trouve aussi parfois ne pas être le cas. La métaphysique traite de possibilités, et c'est seulement si nous sommes capables de délimiter le champ du possible que nous pouvons espérer déterminer empiriquement ce qui est réel, enfin « actual ». Tout en souscrivant pour ma part aux grandes lignes de cette conception, j'observerai qu'elle s'appuie chez Lowe lui-même sur l'hypothèse que le noyau dur, si j'ose dire, de l'enquête métaphysique, autrement dit, l'inventaire des catégories les plus générales de l'être, relève en tout cas clairement, quant à lui, d'une analyse entièrement a priori. Or, il me semble, il dit même, quelques pages plus loin, à la différence des espèces naturelles, ou des essences des espèces naturelles, les catégories métaphysiques sont connaissables, et les essences des catégories métaphysiques sont connaissables a priori. Or, il me semble ici, que même ici, les choses sont en réalité un peu plus complexes et que la difficulté de tracer une frontière précise entre a priori et a posteriori, y compris au sein de la métaphysique, y compris dans le domaine de l'ontologie formelle, comme on dit quelquefois, un terme que je n'aime pas trop, est peut-être plus aiguë encore que ne semble prêt à l'admettre le philosophe britannique. Je ne prendrai ici qu'un exemple qui concerne la catégorie, bon, certains d'entre vous savent qu'elle me tient particulièrement à cœur, de la relation, ou plutôt des principales sous-catégories de relation. Nul doute qu'une des raisons pour lesquelles le déjà très ancien débat initié par les scolastiques, sinon par Platon, autour de l'existence ou du mode d'être des relations comparatives, du type Pierre et plus grand que Paul, continue de diviser aujourd'hui les philosophes, et qu'on voit mal en quoi le développement de la connaissance scientifique aurait pu changer d'une manière ou d'une autre la donne sur ce point depuis Platon ou Aristote. En revanche, là c'est de toute évidence une question qui relève de la seule analyse conceptuelle et de l'argumentation rationnelle. En revanche, je ne vois pas bien, pour ma part, comment la nature et le statut ontologique des relations causales, et à plus forte raison celui des relations spatiales et temporelles, par exemple, pourrait être établi de façon purement a priori par les seuls moyens de l'analyse conceptuelle, indépendamment de ce que nous dit aujourd'hui la science sur ce point, et ce, même si ce qu'elle nous en dit donne lieu, comme nous le savons tous, à des difficultés d'interprétation absolument redoutables, et requiert de toute façon un long et délicat travail préalable d'éclaircissement conceptuel. À cette nuance près, qui montre tout de même à quel point peut être finalement poreuse la ligne de démarcation présumée entre priori et a posteriori au sein même de la métaphysique générale, ou d'une ontologie formelle, dont l'unique objet serait de décrire la structure de la réalité, ou disons l'ensemble probablement restreint des structures ultimes possibles de la réalité, comprise comme un tout et à son niveau le plus fondamental, je suis naturellement d'accord avec Lau, et à moindre degré avec Frank Jackson, pour estimer que la métaphysique entendue ainsi est dans une large mesure a priori, et repose, pour user à nouveau d'un terme que Lau lui-même, et nous verrons bientôt pourquoi, n'emploie guère, lui-même repose sur l'analyse conceptuelle. Une des difficultés bien connues de cette position a trait au sens et à la justification même qu'il est éventuellement possible de donner encore à l'idée même d'analyse conceptuelle, en dépit, notamment et même principalement, des objections fameuses et tenues à tort ou à raison pour une sorte de fait acquis par de très nombreux philosophes, à l'encontre des objections de Quine, à l'encontre de la distinction analytique-synthétique et, à travers cette dernière, de la distinction entre vérité conceptuelle et vérité d'expérience. Sans pouvoir revenir ici, aujourd'hui en détail sur cette question, qui m'est arrivé d'aborder en d'autres circonstances, je dirais simplement que, à mes yeux, la voie la plus prometteuse demeure, aujourd'hui encore, celle d'une théorie normative des concepts, du type, en gros et en première approximation, de celle dont Christopher Peacock s'est efforcé de dessiner les contours dès la fin des années 80, et dont il devait bientôt noter qu'elle implique mutatis mutandis, quelque chose d'analogue, je le cite, à la distinction de l'analytique et du synthétique, ce qu'il écrivait dans A Study of Concepts. Rappelons brièvement que la théorie en question, dont Peacock précise au passage qu'il la regarde comme le fruit d'une étude a priori, se présente comme l'équivalent, via une approche des concepts fondée sur leurs conditions de possession, lesquels incluent notamment les engagements canoniques, comme le dit Peacock, dont le respect par le sujet est de nature de rendre manifeste qu'il possède et maîtrise effectivement le concept considéré, une sorte d'équivalent donc d'une théorie de la signification, entendue à la manière de Michael Dummett, comme une théorie de la compréhension. Et comment s'en étonner, puisque les concepts ne sont après tout rien d'autre que les constituants, ou plutôt les instruments, de l'entendement, de telle sorte qu'une théorie des concepts n'est pas elle-même autre chose qu'une théorie de l'intelligibilité. La différence majeure avec Dummett, au-delà de la thèse de l'indépendance, au moins relative, de la théorie des concepts et de la pensée vis-à-vis de la philosophie du langage, dont Peacock, à la suite de Gareth Evans, s'est fait notoirement l'avocat, la différence essentielle tient par ailleurs au choix d'un manifestationnisme que l'auteur de Study of Concept prend bien soin de distinguer de toute espèce de vérificationnisme. Du fait de son insistance sur les fondements canoniques, les engagements canoniques et autres liens normatifs entre concepts, et donc sur la relation interne entre la possession d'un concept par un sujet quelconque et la maîtrise non nécessairement consciente, des connexions inférentielles entre les pensées au sein desquelles il est susceptible de figurer, la théorie de Peacock n'est évidemment pas sans évoquer les diverses formes de sémantique des rôles conceptuels en philosophie du langage et de l'esprit. De fait, Peacock l'a décrit lui-même comme une variété ou une variante de la sémantique des rôles conceptuels, la SRC, entendue comme théorie des contenus mentaux plutôt que comme théorie de la signification linguistique. Elle ne s'en distingue pas moins de la sémantique standard, j'allais dire, à la net bloc, par exemple, des rôles conceptuels ou inférentiels sur certains points essentiels. Passons sur la question que j'ai l'occasion d'aborder ailleurs, dualisme de la signification ou du contenu auquel la sémantique des rôles conceptuels se trouve à première vue confrontée du fait de son insistance à individuer les concepts sur la base principalement de leurs liens, de leurs connexions inférentielles. Et que Peacock s'estime en position, mais c'est une autre histoire, de pouvoir déminer en faisant valoir que sa propre théorie ne l'engage qu'à reconnaître qu'une pluralité de simples holismes locaux. Plus important, sans doute, est le fait qu'il ne s'agit pas d'une théorie des contenus étroits, mais au contraire des contenus larges, plus proche en ce sens du fonctionnalisme au bras long d'un Gilad Hammond ou de Jackson et McDowell, et un double titre. D'une part, en ce qu'elle prend en compte et qu'elle établit l'impossibilité de ne pas prendre en compte les relations entre le sujet et son environnement, dans l'établissement des conditions de possession d'une grande partie de ces concepts, et d'autre part, parce qu'elle se donne pour tâche de rendre compte de la manière dont les conditions de possibilité de tous les concepts, quels qu'ils soient, permettent de garantir que les jugements au sein desquels ils sont susceptibles de figurer, et qui par nature visent le vrai, aim at truth, déterminent leurs conditions de vérité, et donc le monde aidant leur valeur de vérité. En quoi il s'agit d'une théorie authentiquement, je ne dirais pas fréguéenne, mais néo-fréguéenne, qui ne se distingue du même coup de la conception assez largement répandue à la même époque, sous le nom du théorie du double composant, ça commence à dater un peu, qui revenait à séparer au contraire, enfin, du moins jusqu'à un certain point, le contenu étroit, hein, défini par son seul rôle inférentiel intracrânien, si j'ose dire, et le contenu large, autrement dit le contenu référentiel et vériconditionnel. Plus important du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui est le fait qu'il s'agit d'une théorie, je parle de la théorie de Peacock, ouvertement normative, et non pas simplement descriptive, comme le serait une approche purement psychologique ou cognitive des croyances et autres contenus mentaux. Alors, je serai ici de côté la question de savoir si, et à quel prix, elle peut néanmoins s'articuler avec une telle approche, et plus largement avec une approche naturaliste de l'esprit et de l'intentionnalité, comme si c'est Peacock au chapitre 5 de son livre « A Study of Concept ». Au lieu de quoi, je m'en tiendrai pour aujourd'hui aux deux remarques suivantes. D'abord, la notion de normativité est, comme l'on sait, un topos récurrent de la philosophie du langage et de l'esprit de la seconde moitié du XXe siècle, de Quine et Davidson, en passant par toutes sortes de variations autour des principes de charité, de rationalité ou d'humanité en matière d'attribution des concepts et des croyances. Mais la position de Peacock ne saurait justement être considérée comme attributionniste, ainsi que Peacock le fait d'ailleurs lui-même valoir, en mettant notamment en avant que l'attribution en question n'exige généralement pas du sujet une maîtrise complète des concepts, qu'une théorie, ces mêmes concepts formulés en termes de conditions a priori de possession, de conditions de possession, semble requérir au contraire. Et deuxièmement, si la théorie des concepts est normative, en tant qu'elle fixe les conditions que le sujet doit remplir afin de pouvoir être légitimement crédité du concept en question, c'est que les concepts eux-mêmes revêtent, écrit Peacock, une dimension essentiellement normative. Alors à ce point, si le concept de X correspond finalement à ce que nous devrions, plus ou moins idéalement, connaître de la nature de X, la question qui se pose est inévitablement de savoir ce qui distingue encore une théorie normative des concepts d'une conception de la métaphysique, entendue directement, selon l'expression de Jonathan Low, comme une science de l'essence. Je vois pour ma part plusieurs raisons de refuser cette équivalence. L'une d'entre elles, et pour m'en tenir ici à l'essentiel, est que je ne vois aucun motif de supposer qu'à chacun de nos concepts, combien même ceux-ci pourraient être, sinon définis stricto sensu, du moins informellement caractérisés en termes de leurs conditions plus ou moins idéales de possession, correspond une distinction ontologique en dernier ressort pertinente. Si vous voulez, c'est là l'équivalent de l'observation désormais banale qu'à tout prédicat bien formé du langage ordinaire, et même à tout prendre du langage scientifique, ne correspond pas forcément une propriété ou une relation authentique. Une autre raison, voisine de la première, est que les concepts à la Peacock sont des modes de présentation, et qu'en toute logique fréguéenne, une même essence, une même propriété, bref, un même concept, mais au sens cette fois précisément fréguéen du terme, peut faire l'objet de différents modes de présentation. Pour ne prendre qu'un seul exemple, mais on pourrait tout aussi bien prendre celui des concepts observationnels, par exemple, soit le cas des concepts d'espèces naturelles. Même si Peacock lui-même n'évoque ce cas particulier que assez rapidement, finalement. On peut penser avec lui, et si on s'en tient aussi bien aux thèses de Crickey et Putnam, qu'aux travaux en matière de psychologie développementale, vous aurez constaté que, curieusement, elles sont venues apparemment les confirmer au cours de la même période. Pour un bel exemple d'harmonie préétablie. Si on se fie donc à ce genre de thèse, on peut penser que le concept de telle ou telle espèce naturelle, à défaut de définition, se compose d'une part du stéréotype qui lui est associé, et d'autre part d'une présomption d'essence implicite du fait que ce stéréotype, doublé d'une dimension qui s'incarne dans la reconnaissance implicite du fait que ce stéréotype ne détermine pas l'extension du concept en question. Pour quelles raisons? Et à supposer même qu'il s'agisse bien de ce que nous entendons, ou dans le meilleur des cas, ce que nous devrions entendre, lorsque nous parlons de l'or, des vaches, de l'eau, des sapins et des conifères, en général, pourquoi devrions-nous supposer que nos concepts correspondent à l'essence putative des dites espèces ou substances naturelles, considérées objectivement et en elles-mêmes? Des concepts aux essences, la conséquence n'est pas forcément bonne, sauf à rabattre d'emblée les premiers sur les seconds. Et je plaiderai pour l'indépendance des essences par rapport au concept. Quelle que puisse être par ailleurs, par conséquent, son utilité et sa pertinence au titre de condition préalable d'une tentative d'éclaircissement de ce qu'il convient d'entendre par analyse conceptuelle, il est clair qu'une théorie des concepts ne constitue au mieux qu'une première étape et qu'elle ne saurait prendre la place d'une authentique enquête métaphysique, conçue, selon les termes de l'ordre, donc comme une science de l'essence. Dans un monde idéal, j'aurais sans doute eu le temps de dire un peu plus que ces quelques mots rapides, et le temps de préparer surtout, et de revenir un peu plus que ces quelques mots rapides, sur cette dernière idée. Faute de mieux, je me contenterai de rappeler qu'un des traits les plus remarquables de l'évolution récente de la philosophie analytique tient précisément à la réhabilitation de la notion vénérable et si longtemps décriée d'essence. Notons tout aussi brièvement qu'il existe au moins deux formes d'essentialisme dans la philosophie contemporaine, et même trois si on compte l'essentialisme dispositionnel d'un Brian Ellis. La première est évidemment celui qu'on a généralement associé aux écrits de Kripke et de Putnam, fondés sur ce qu'on a pu appeler à l'époque la nouvelle théorie de la référence, et sur l'idée d'une dissociation entre les couples nécessaires contingents et a priori a posteriori. La seconde, plus récente, repose en partie sur la critique des arguments de Kripke et de Putnam, que je serai ici de côté, mais aussi plus généralement sur le rejet d'une approche purement modale de la notion d'essence, dont des philosophes comme principalement Kit Fine et Jonathan Lowe estiment qu'elle met tout simplement, en quelque sorte, la charrue avant les bœufs. Leur thèse fondamentale sur ce point étant que c'est la notion d'essence qui permet de rendre compte des concepts de possibilité ou de nécessité, et non pas l'inverse. Il est à noter que ce n'est sans doute pas un hasard si ce changement de paradigme, là encore, peut-être un bien grand mot, est contemporain du regain d'intérêt pour la notion de nature commune, hein, et pour la doctrine qu'on peut faire remonter au moins jusqu'à Avicenne, hein, et reprise ensuite par Dan Scott, etc., de l'indifférence de l'essence par rapport à la distinction non moins traditionnelle entre universaux et particuliers. Mais qu'est-ce à ce compte qu'une essence ? Aussi bien Fine que Lowe se réfèrent régulièrement à la définition de Locke, qui se borne à écrire que l'essence est, vous connaissez tous la formule, l'être même de quelque chose par laquelle il est ce qu'il est. Le voici bien avancé, messieurs, dames. Bon, dont acte, en dépit du caractère effectivement à première vue tautologique d'une telle définition. Le problème ne s'en pose pas moins d'un éventuel critère permettant de distinguer parmi les différents traits de X, disons Socrate, et sans revenir subrepticement à nos plus ou moins vagues intuitions modales, entre ceux qui lui appartiennent en effet essentiellement, par exemple son humanité, et ceux qui ne possèdent en principe que de façon purement accidentelle, comme son célèbre nez Camus. En tout cas, la forme du nez. Une partie de la réponse tient dans l'idée, explicitée en détail par Lowe, une partie de la réponse, que statuer sur l'essence d'une entité de type, une entité quelconque de type T, consiste au moins, pour partie donc, à statuer sur les conditions d'identité spécifiques aux entités de ce type. Un autre élément de réponse est que l'essence d'une chose d'un certain type est aussi en partie fonction de ses liens de dépendance ontologique avec d'autres choses d'un type différent. Mais c'est alors vers cette dernière notion qu'il nous faut à présent nous tourner, ou qu'il faudrait pouvoir nous tourner, alors même que l'analyse assez voisine qu'en proposent conjointement Fine et Lowe en vient à faire appel tout à la fois à l'idée de priorité dans l'ordre de l'explication métaphysique, hein, le « because », et à la supposition que le pourquoi métaphysique est lui-même in fine interprétable de façon non psychologique, et par ailleurs de prime abord non moins circulaire, en termes de dépendance essentielle. Notons pour finir sur ce point qu'un problème connexe se pose aussi à propos du critère requis pour décider, en fin de compte, de ce qu'il y a. Supposons qu'au regard des insuffisances, assez largement répertoriées, me semble-t-il, du critère de Quine en la matière, nous tournions plutôt, avec un nombre croissant d'auteurs contemporains, vers la théorie des vérifacteurs. Bien que celle-ci, comme me le rappelait récemment notre ami Kevin Monaghan, se présente elle aussi comme une tentative d'explication, au fond, de la vérité, disons, de P, la question se pose de savoir dans quelle mesure elle permet de satisfaire pleinement, et dans tous les cas, aux exigences inhérentes à la notion même d'explication, qui me paraît résider en définitive au cœur de l'idée de rationalité de la métaphysique. Pour illustrer sur ce point, et en guise de conclusion, il me reste 5 minutes, je souhaiterais revenir pour finir au cas des relations, et plus particulièrement du cas banal des relations comparatives. La caractéristique essentielle de ce type particulier de relations est qu'elles sont fondées et peuvent être dites survenir, en un sens, sur les propriétés monadiques de leur terme. Aussi s'est-on régulièrement demandé depuis le Moyen-Âge si, et jusqu'à quel point, elles pouvaient être créditées d'une existence distincte, au-delà, je veux dire, de celle de leur fondement non relationnel. Dans la littérature récente, et je m'en tiens là vraiment en grande ligne, la question a souvent reçu une réponse négative, pas la question de savoir si elles ont une vérité distinctive, une réponse négative, à la lumière de la doctrine à laquelle David Armstrong a donné le nom fameux de « déjeuner ontologiquement gratuit hein, »,« free ontological lunch », et selon laquelle les entités survenantes n'ajoutent rien, ontologiquement parlant, aux entités qui les sous-tendent. Par-delà les objections techniques de détail qu'elles suscitent, bon, je n'aborderai pas ici, une objection majeure à cette forme de réductionnisme, et qu'il n'y a guère de sens, et qui est à la même, à la limite, incohérent, de soutenir, comme le font aussi bien Keith Campbell, par exemple, qu'Armstrong lui-même, que les relations fondées existent réellement et qu'elles ne jouissent en même temps d'aucune forme de réalité ontologique autonome. Comme l'a récemment noté Jonathan Lowe, c'est là recourir à une sorte de double talk, de double langage. Et de fait, il semble presque contradictoire d'affirmer à la fois que les relations de ce type existent, comme semble de prime abord impliquer le slogan selon lequel elles sont telles que l'existence de leurs termes entraîne nécessairement la leur propre, et que néanmoins, elles n'ajoutent rien, ontologiquement parlant, à l'être de leur fondement non relationnel. Il y a là, en règle générale, un vrai problème pour la thèse du repas ontologique à l'œil. Rien n'est gratuit. Hélas. Au vu de cette difficulté de principe, il n'est pas étonnant qu'un certain nombre de philosophes, parmi ceux qui tiennent les relations internes, enfin plus exactement les relations fondées, pour ontologiquement récessives, expression que j'emprunte à John Hale, aient choisi une approche différente. En gros, elle consiste à, premièrement, à dénier carrément toute forme d'existence aux relations en question, et deuxièmement, à faire reposer cette assertion, non pas sur la stratégie survenance plus déjeuner à l'œil, mais sur un recours plus direct au principe des vérifacteurs. Armstrong lui-même, certes, est en grande partie à l'origine de cette dernière stratégie, mais chez lui, elle est censée venir à l'appui de la première, la stratégie, j'allais dire, survenance plus déjeuner gratuit, et la conclusion à laquelle il aboutit, selon laquelle la mise au jour des véritables vérifacteurs des prédications relationnelles considérées conduit à une conception déflationniste de leur valeur sémantique, évoque davantage l'idée de réduction que celle d'élimination pure et simple. Mais la génération suivante, représentée par des auteurs par ailleurs aussi différents que Jonathan Lowe, déjà cité, Peter Simons ou John Hyde, est plus radicale. De son point de vue, on ne devrait même pas dire que les relations fondées surviennent sur leur base modalique. Le dernier mot d'histoire est qu'il n'y a tout simplement pas de relations internes, tant au sens large, c'est-à-dire qu'au sens étroit du terme. Comme l'écrit Peter Simons, il y a certes des porteurs de vérités relationnelles, relational truth bearers, vrais de façon interne, internally true, mais pas de vérificateurs objectifs, objectifs pour les propositions de ce type. Et sans doute pas non plus d'ailleurs des relations externes, mais ça c'est une autre histoire. À en croire les nouveaux éliminativistes, comme je les appellerais, une proposition comme celle qu'exprime l'énoncé « Socrate est plus grand que Théétète », si elle est vraie, est rendue vraie uniquement par le double état de choses qui veut que les deux hommes aient la taille qu'ils ont du fait chacun de son côté. Alors il n'y a nullement besoin d'aucune entité supplémentaire, d'aucun vérifacteur intrinsèquement et irréductiblement en relationnel, qu'il s'agisse d'un trope relationnel, d'une instance universelle ou d'un état de choses au sens Armstrongien du terme, pour rendre compte de sa vérité. Pourquoi ? L'idée, semble-t-il, que c'est uniquement en vertu de la nature, de l'essence de ces termes immédiats, en vertu de l'essence des propriétés monadiques sous-jacentes, pertinentes de part et d'autre, que cette proposition est vraie. Je veux bien. Mais comment cela est-il supposé expliquer que la simple conjonction des deux faits monadiques que Socrate mesure, disons, 1m80 et le jeune mathématicien 1m70, soit censé avoir nécessairement pour conséquence la vérité de l'énoncé « Socrate est plus grand que Théétète ». La réponse qui vient évidemment à l'esprit, même si elle peut paraître naïve, n'est-ce pas, est que ceci est tout simplement dû au fait que la taille de Socrate est supérieure à celle de Théétète. Alors bien entendu, les amis du nouvel éliminativisme façon Truthmakers, si j'ose dire, ne l'entendront pas de cette oreille. Malgré tout, on voit mal comment la simple conjonction de deux états de choses a priori indépendants pourrait suffire à rendre vrai, l'énoncé cible. La question que j'essaie de soulever, c'est simplement celle de la validité, non pas de la validité de la théorie des vérifacteurs, à laquelle je souscris pour ma part tout à fait, mais disons à sa pertinence ou de son degré de pertinence, selon les cas, dans l'ordre de l'explication métaphysique. Naturellement, on pourrait m'objecter à ce point qu'en matière de métaphysique comme ailleurs, l'explication doit bien s'arrêter quelque part et que tout philosophe doit bien admettre, en ce sens, des faits métaphysiquement primitifs. J'en suis bien d'accord. Mais pourquoi, dans ce cas, ne pas inclure plutôt parmi ces derniers l'existence de faits authentiquement relationnels, y compris s'agissant des relations fondées ? Ainsi que le remarque Fraser McBride, tout se passe comme si les avocats de la branche éliminativiste de la Société des Amis des Vérifacteurs, avait déjà inscrit ou présupposé au sein de l'essence des relatas d'une relation interne de ce type tout ce qui est en fait requis pour que les propositions concernées soient vraies, comme si, autrement dit, la relation en question se trouvait d'emblée inscrite en filigrane ou encapsulée, si vous voulez, dans les propriétés monadiques de cet air. Bon, c'est évidemment qu'un exemple, je crois avoir épuisé mon temps de parole, donc je m'arrêterai là. Ce n'est qu'un exemple, mais dont l'interprétation peut fort bien être contestée d'ailleurs, mais qui m'en paraît pas moins illustrer l'idée sur laquelle, de façon plus générale, tout le poids de la notion de rationalité métaphysique repose en dernier ressort sur celui d'explication métaphysique, le fameux metaphysical because qui fait l'objet d'ailleurs aujourd'hui de nombreuses discussions.
Merci infiniment. Pierre, j'aimerais bien que tu interviennes là-dessus.
Je vais être particulièrement bref. Je suis vraiment d'accord sur le principe de ta conférence, c'est-à-dire sur l'idée que si il y a une chance que nous puissions assister à quelque chose comme une reconstruction de la raison, il faudra suivre le chemin, enfin au moins pour une part, suivre le chemin que tu as décrit, c'est-à-dire arriver à retrouver une notion de la métaphysique comprise au fond à nouveau au sens d'une science générale de l'être et qui de ce fait redeviendrait capable de restituer à la raison quelque chose au moins de ses propriétés d'unité et d'universalité qu'elle possédait autrefois. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je dois même dire que si j'avais à commencer maintenant, au lieu d'avoir eu à le faire dans les années 60, c'est probablement dans cette direction-là que j'essaierai d'aller. Malheureusement, je ne peux plus le faire, évidemment, je suis plutôt préoccupé pour le moment par l'idée d'arriver à terminer un certain nombre de choses que j'ai commencé. Donc je pense que c'est un domaine que je n'aurai pas l'occasion d'explorer véritablement moi-même, et je suis au regret de constater que un bon nombre des contributions et des discussions que tu as évoquées sont des choses que je connais assez mal. Mais ce que je peux dire, c'est que je vais suivre ce qui va se passer dans ce domaine avec la plus grande sympathie, ça va sans dire, avec la plus grande attention, parce que je crois que c'est véritablement de ce côté-là qu'il faudra essayer d'aller, de toute façon. Et j'ai été très, très, très frappé par ce que tu as dit au début sur la façon dont l'attitude à l'égard de la métaphysique a pu changer. Quand j'ai commencé moi-même, j'avais à l'égard de la métaphysique une réaction assez proche de celle du cercle de Vienne. Ça avait beau être les années 60, parce que, bon, j'ai pas besoin d'évoquer de façon plus précise de quel côté il fallait chercher la métaphysique. La métaphysique, pas tort ou à raison, c'était Heidegger, c'était des choses de ce genre. Donc, je considère comme éminemment positif cette possibilité que d'avoir à nouveau quelque chose comme une métaphysique qui, comme tu l'as rappelé, je crois, à juste titre, devrait être associée intrinsèquement à la science, sans forcément avoir à être elle-même scientifique. Ça, c'est un point sur lequel Claudine, évidemment, a des choses beaucoup plus précises que moi à dire. Mais je voudrais rappeler encore que quand j'étais jeune, j'y ai participé avec Villemin et Granger au lancement d'une revue qui a connu deux commencements de vie et deux morts successives, qui s'appelait L'âge de la science. Et alors, l'idée, elle a existé deux fois, c'est pour ça que la première fois par Duno, et puis ensuite par Odile Jacob. Je ne sais plus combien de numéros il y a eu.
C'est pour ça que j'ai repris cette expression tout à l'heure. Oui. C'était un peu un clin d'œil.
J'ai encore tous les numéros, mais je pense qu'ils sont devenus à peu près introuvable. Et évidemment, l'idée, c'était que, comme Bachelard l'avait constaté, nous vivons une époque qui est l'époque de la science et qui n'a pas la philosophie qu'elle mérite. C'était l'idée de Villemin et de Granger. Mais je pense qu'on pourrait dire à présent, avec raison, que non seulement notre époque n'a pas, que l'époque de la science n'a pas la philosophie qu'elle mérite, mais elle n'a pas non plus, ou en tout cas peut-être pas encore, la métaphysique qu'elle mérite. C'est-à-dire qu'il nous faudra... je ne sais pas si je vivrai assez vieux pour assister encore à l'émergence de quelque chose de ce genre, il nous faudra non seulement une philosophie qui soit adaptée à une époque comme la nôtre, à une époque de la science, mais une métaphysique qui soit une métaphysique de la science, probablement, ou en tout cas qui marche la main dans la main avec la science. Voilà, je ne peux pas, malheureusement pas en dire plus en réaction à ton exposé.